Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Christa Leuc.
Canal Académie s'est déplacé au musée Jacques Marandré, qui fut légué au début du XXe siècle à l'Institut de France. Le musée Jacques Marandré est situé au cœur de Paris, tout près des Champs-Élysées. Je le précise pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore ce musée bijoux. Il s'agit d'un splendide hôtel particulier fin 19e siècle qui fut la demeure de Nelly Jacquemart et Édouard André, célèbre couple de collectionneurs. Il rassemble plus de 150 chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne, de la peinture flamande ou encore la peinture française, principalement du XVIIIe siècle. Notre visite aujourd'hui revêt une dimension impériale, puisqu'elle nous conduit à l'exposition « Les trésors de la Fondation Napoléon ». Canal Académie a rencontré M. Nicolas Sainte-Fargarneau, conservateur du musée Jacques Marandré et commissaire de cette exposition qu'on peut voir jusqu'au 3 avril. En décembre 2004, la France a commémoré le bicentenaire du sacre de Napoléon en divers lieux à travers le pays, de la Corse au Louvre à Paris en passant par Fontainebleau. Pourquoi le choix de Jacques Marandré pour cette exposition? Y a-t-il une relation privilégiée entre ce musée et la Fondation Napoléon? Et quel est le rôle ou la fonction de la Fondation Napoléon? Monsieur Nicolas Sainte-Fargarneau veut bien nous le préciser.
Oui, il y a en effet une relation privilégiée qui se joue à plusieurs niveaux. L'un d'entre eux est le fait que le professeur Jean Tullard, membre de l'Institut, est également, vous l'imaginez, membre du conseil d'administration de la Fondation Napoléon. Le fait que la Fondation soit installée à 10 numéros sur le même boulevard que le musée Jacques Marandré. Le fait que la famille André, donc la famille du fondateur du musée, était très liée à la famille Bonaparte. Donc voilà, vous voyez toutes sortes de bonnes raisons qui ont fait que nous avons, envisagé ce projet avec beaucoup d'intérêt. Et dernière raison que je voudrais ajouter, le fait que la collection qui est présentée est une collection essentiellement constituée d'objets qui ont trait à la vie quotidienne et à la vie intime de grands personnages. Or, le musée Jacques Marandré, c'est un musée qui est installé dans un hôtel particulier, donc nous sommes très sensibles au cadre de vie. Et nous retrouvons avec cette collection un cadre de vie qui est celui qui a été le cadre de vie de l'empereur, de ses proches, pendant cette période.
Parlant de cadre de vie, on ne peut que souligner à nouveau le cadre à la fois somptueux et intimiste du musée-hôtel Jacques Marandré, qui offre un écrin digne de cette exposition. Des trésors exposés autant que de l'empereur. Dès l'entrée, nous sommes accueillis dans une ambiance à la fois ample et feutrée. Murs habillés de satin, l'éclairage tamisé laissant apparaître les splendeurs présentées. Car Jacques Marandré n'a pas lésiné sur les moyens et nous offre pour cette exposition une riche scénographie tout en jeu de lumière. Il y a en tout 7 salles d'exposition où l'on découvre l'extraordinaire foisonnement des arts décoratifs sous l'Empire, aussi bien que le cadre plus personnel de Napoléon jusqu'à son exil à Sainte-Hélène. Une collection inédite où les œuvres d'art voisinent avec des objets historiques exceptionnels du Premier Empire. On y trouve également quelques pièces rares de militaria. Dès les premières salles, le raffinement s'impose de tous ces objets exécutés par les meilleurs artistes et artisans français de l'époque. La promesse est tenue de nous faire voyager dans l'intimité brillante de la société impériale. Le commissaire de cette exposition, M. Nicolas Sainte-Fargarneau, voudra peut-être bien nous faire une visite guidée radiophonique en nous présentant les pièces les plus significatives.
Oui, bien sûr. Alors écoutez, voilà, nous franchissons le seuil d'une maison. Oui. Cette maison est décorée avec des emblèmes et puis nous rentrons dans le grand salon. Ce salon est aménagé avec un mobilier d'époque, d'empire, et nous avons distribué autour de nous toute une série d'objets d'art, vous l'avez dit, d'objets décoratifs, précieux, qui sont des objets de la vie courante, des vaisselles, des tabatières, des miniatures, des coffrets, parce que vous savez, à cette époque, les gens voyagent beaucoup. Donc on prend avec soi ce qu'on appelle le nécessaire. Dans le nécessaire, qui est une grande boîte, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour passer la journée, à boire, à manger, à écrire, à recoudre vos habits s'ils sont un petit peu abîmés, et ainsi de suite. Seulement, ce que je vous dis a l'air tout à fait naturel, ce qu'il faut bien souligner et rappeler à nos auditeurs, c'est que ces objets-là sont faits par les plus grands orfèvres de la période, notamment Biennet, qui est l'orfèvre de l'empereur, et ce sont des objets magnifiques, traités dans des matériaux somptueux ou précieux, avec un raffinement d'exécution, de style qui est tout à fait admirable. Donc cette pièce est éblouissante.
Un service à thé d'une rare finesse qui aurait donc demandé l'intervention de 8 artisans.
Vous savez, les amateurs sont toujours curieux de savoir qui a fait quoi. Oui. Alors, on retourne la tasse ou l'assiette et on regarde la signature ou la marque. Et pour cette période, c'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas une marque, mais il y en a 4, 5, 6. Et quand on va dans les archives de la manufacture impériale de Sèvres pour les porcelaines, on s'aperçoit que entre le moment où l'objet est façonné et le moment où l'objet est décoré, il est passé entre les mains d'au minimum 8 personnes. Le délai pour fabriquer et achever la décoration est très long, vous l'imaginez. Et comme on emploie des matériaux très coûteux, évidemment, le prix de l'objet est extrêmement élevé. Mais le plaisir des yeux est au rendez-vous.
On ne peut que le confirmer. Nous passons maintenant, si vous voulez bien, monsieur le commissaire, aux salles suivantes, notamment à celle du sacre, avec cette rarissime et inédite étude qui a précédé la réalisation définitive du fameux couronnement de David.
La deuxième salle, c'est une salle qui est consacrée au sacre de l'empereur, au sacre ou au couronnement, selon les versions. Vous avez différents objets, notamment le dessin préparatoire définitif qui fixe l'agencement de la cérémonie telle qu'elle doit passer à la postérité, et non pas, je vous le précise, telle qu'elle s'est passée en réalité. Il y a eu un trucage de l'histoire, de telle sorte que les choses soient arrangées, en quelque sorte. Alors, cette scène dans le dessin est tout à fait passionnante, puisqu'elle ne correspond pas exactement au tableau définitif, vous le savez, qui est au Louvre, naturellement.
Il y aurait une anecdote liée à ce tableau, n'est-ce pas ?
Sur le dessin, on voit en effet que l'empereur pose la couronne sur sa tête. En fait, à ce moment-là, il a deux couronnes. Il a la couronne de laurier qu'il a lui-même posée sur sa propre tête, qui veut dire qu'il est devenu empereur. Et puis, il a la couronne de l'impératrice qu'il pose sur sa tête pour dire que la puissance impériale vient de lui et il va la transmettre à Joséphine. C'est ce qu'on voit sur le dessin. Mais sur le tableau, cette scène qui est, comment dire, scandaleuse, parce qu'on considère qu'elle fait preuve d'une suffisance et d'une autosatisfaction inouïe, elle est transformée. Et que voit-on? Que découvre-t-on? On découvre une scène charmante, puisque c'est l'empereur qui décore et qui pose la couronne sur la tête de son épouse. Voilà une scène qui est tout à fait admissible.
Après la fameuse salle du couronnement, nous poursuivons notre promenade impériale en pénétrant le monde et le cadre plus personnel de Joséphine.
Joséphine, qui a été la première épouse de Napoléon, une femme très belle et qui avait, il ne faut pas l'oublier, c'était une femme de l'ancien régime. Napoléon est un soldat et il est issu d'un milieu et d'un monde, la Corse, qui n'avait pas le raffinement de la société parisienne. Joséphine de Beauharnais, elle appartient à l'ancien régime. Et donc, tout le raffinement de son temps, elle l'a transféré à l'époque impériale. Et vous voyez là tous ces objets qui accompagnaient sa vie. le bol à ponche, son cabaret, le serre-papier, cet instrument si bizarre. C'est un petit meuble qui sert à dissimuler sa correspondance, mais qui est traité de façon somptueuse, comme si c'était, un armorial. Et puis, quantité d'autres objets qui lui ont appartenu dans le cours de sa vie. Alors voilà, ça ce sont les objets de son intimité à elle, et puis ceux de sa famille. Il y a un portrait de sa fille, il y a aussi son écritoire avec les portraits de ses petits-enfants, dont le futur empereur Napoléon III. Donc vous avez la dynastie qui se dessine au travers d'un objet, ce qui est fascinant puisque c'était la volonté de l'empereur. Pourquoi a-t-il voulu être couronné ? Pour assurer le pouvoir au-delà de sa propre personne.
Joséphine, la séductrice, n'a visiblement pas manqué de séduire également Nicolas Sainte-Fargarneau. Joséphine, l'impératrice, est femme de goût, d'une grande élégance, est au centre des modes de son temps. C'est sous son influence que Napoléon commanda un service de table exceptionnel, le service des quartiers généraux. L'empereur donna lui-même des directives très précises concernant les scènes à peindre sur les assiettes, des sujets qui devaient réveiller en lui des souvenirs de campagne agréables. Nicolas Sainte-Fargarneau, nous continuons alors notre visite dans la salle du service particulier de l'empereur.
Alors nous passons ensuite dans une salle qui est consacrée à la présentation d'un ensemble assez exceptionnel, il faut bien le dire, le 19 assiettes du service des quartiers généraux. Donc ce service de table en porcelaine de Sèvres que l'empereur avait commandé en 1807 et qui est livré seulement en 1810. Donc 3 ans pour faire ce service de 72 pièces, il est vrai. Et puis ce service, Napoléon l'adore, il faut bien le dire. Il est si beau avec ses images de toutes ses campagnes ou de ses constructions qu'il a installées dans les différentes parties de l'Empire. Les différents édifices parisiens modernisés, restaurés, rénovés grâce à l'empereur. Et puis enfin, vous avez ces objets qui sont emmenés à Sainte-Hélène, dispersés, donnés en cadeau. Et alors, tous ces objets ont été rachetés progressivement par la Fondation Napoléon, qui aujourd'hui en a un des ensembles les plus importants, 19 assiettes.
Oui, un superbe service fabriqué par la manufacture de Sèvres pour le mariage de l'empereur avec Marie-Louise, le 2 avril 1810. Nicolas Sainte-Fargarneau, le commissaire de cette exposition au musée Jacquemart-André, nous retrace la fulgurante trajectoire de Napoléon que donne à voir cette collection unique. Préparer une telle exposition permet d'approcher de plus près cette figure emblématique de l'empereur. C'est également un défi ou un dilemme. L'ambivalence entre le héros, le génie militaire et finalement le vaincu. Entre d'une part le créateur du code civil, de la cour des comptes ou encore des lycées, le grand réformateur du système administratif français, et d'autre part le chef des armées responsable de tant de guerres. Nicolas Sainte-Fargarneau nous répond quelle impression il avait gardé de cette rencontre avec un personnage si contrasté, sinon contesté.
Vous avez cité toutes ces qualités et ces défauts rassemblés, donc je ne sais pas si je peux en ajouter et dire quoi que ce soit de plus. Si vous voulez, ce qui est tout à fait étonnant chez ce personnage, c'est qu'il y a cette espèce de dimension qui est toujours extrême. Vous avez cité la réforme qu'il a incarnée, et non seulement la réforme, mais la modernisation dont notre pays, la France, est encore issue, et qui a aussi, il faut le rappeler à l'époque, touché beaucoup de pays européens qui avaient été à un moment ou un autre placés sous la tutelle de l'empereur. Il y a l'autre aspect qui est cet aspect de la conquête. Et évidemment, c'est un élément qui fait réfléchir. Si vous voulez, pour nous, et à la distance, parce que bien entendu, il ne s'agit pas de singer le personnage, ce qui reste et ce que je constate aujourd'hui en regardant le public qui vient visiter l'exposition, c'est un formidable attachement à cette figure. Alors, on va dire, pour être pour être franc, à quelque chose qui est devenu aujourd'hui une figure de légende. Oui. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que peut-être beaucoup plus que Jeanne d'Arc, beaucoup plus que Louis XIV et que combien d'autres figures de notre histoire, Napoléon, c'est un nom qui fait rêver. Vous savez, aujourd'hui, c'est agréable de pouvoir rêver. Je crois que ça, le public y est très sensible.
Quelque chose qui aurait frappé particulièrement le commissaire durant le déroulement de cette exposition ? Un étonnement, une surprise, une découverte ?
Je peux simplement vous faire une réflexion. On évoque souvent la période de des années qui précèdent la Révolution comme une période de très haute distinction, de raffinement dans le domaine des beaux-arts ou des arts décoratifs. Alors, ce qui est très, pour moi, ce qui est très fascinant, c'est de voir qu'en réalité, les hommes, je veux dire par là les artisans ou les artistes qui sont capables de fabriquer ces objets, ont traversé la période révolutionnaire et ont, au moment où l'empereur l'a voulu, ont été capables de fournir les marques sensibles, visibles de ce raffinement, évidemment avec les emblèmes de l'Empire. Mais la qualité, le niveau de perfection de ces objets est le même que précédemment. Quand je dis le même, il faut comprendre que ensuite, on n'aura pas le même niveau de raffinement. Donc on a une continuité dans la perfection du point de vue des arts décoratifs qui est tout à fait sensible. Et je crois que les visiteurs de l'exposition le découvrent de façon très claire.
Reste une question. En quoi Napoléon est-il actuel ? Quelle facette de sa personnalité peut toucher la jeunesse d'aujourd'hui ?
Écoutez, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Même si Napoléon a été, comme il aimait à le dire lui-même, l'empereur des Français, c'est quand même un personnage qui a, qu'on le veuille ou non, investi une bonne partie du monde. Et cette espèce de mouvement de tremblement qui a saisi une grande partie de l'Occident, c'est quelque chose qui nous fait rêver. Et je pense que ça, on aurait envie que toute la jeunesse occidentale se lève derrière un nouvel homme comme celui-là.
Mais parmi les visiteurs, en dehors des groupes scolaires, y a-t-il beaucoup de jeunes ?
Oui, je crois. C'est vraiment un engouement qui touche toutes les catégories d'âge, de personnes. Et en effet, on pourrait dire que en cette année du bicentenaire du sacre de Napoléon, on voit bien qu'il y a une continuité et un renouvellement de l'intérêt du grand public. Et ce renouvellement se fait évidemment par les jeunes. Les gens convaincus n'ont pas besoin de l'être, mais il y a de nouveau, notamment parmi la jeunesse, il y a de nouveaux convaincus.
Monsieur Nicolas Sainte-Fargarneau, merci d'avoir bien voulu nous présenter les points forts de cette exposition, la splendeur et le cadre plus intime du dernier empereur français. Thank you.